Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier ? Et maintenant ?
Ah là là, ça fait longtemps maintenant que les cinémas sont fermés en France, mais je me souviens très bien, l'une des dernières fois où j'ai pu y aller, c'était l'été dernier, pour voir Tenet de Christopher Nolan. Et ma plus grande incompréhension n'était pas le scénario, bizarrement, mais pourquoi Christopher Nolan continue de tenter d'écrire des personnages féminins alors qu'il tombe sans cesse si loin de la plaque ? En fait, c'est qu'on n'en peut plus des caricatures, des étiquettes, des personnages féminins prétextes dont on ne se souvient plus du nom à la sortie de la salle. Avait-elle même un nom ? À l'approche du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, on veut revendiquer notre droit à la représentation dans les films et les séries. Et on se lance à la reconquête des personnages féminins pour qu'ils nous ressemblent davantage. Pour qu'ils soient vivants, finalement. Bienvenue dans Affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado. Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Affiché, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle, et à l'occasion du 8 mars qui approche, la Journée internationale des droits des femmes, j'ai voulu me pencher sur notre droit parfois bafoué en tant que femme de voir des personnages féminins qualitatifs évoluer sur petit ou grand écran. Mais grâce à mes deux invités du jour, le monde est un peu meilleur, puisqu'elles sont scénaristes et réalisatrices, et qu'elles écrivent des personnages féminins avec justesse. Bonjour Marine, bonjour Sabrina. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en donnant en prime le tout premier personnage féminin auquel vous avez pu pleinement vous identifier, bien sûr. Ça peut être un personnage que vous avez écrit.
Alors, bonjour. Donc moi, je suis Marine Francène. Je suis réalisatrice depuis une dizaine d'années. Et avant de réaliser, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années comme assistante mise en scène dans le cinéma essentiellement et un peu pour la télévision. Et j'ai réalisé un premier film qui s'appelle Le Semeur, qui est une adaptation d'un petit livre qui s'appelle L'Homme Semence, écrit par une femme qui s'appelle Violette Ayot, et qui est un film historique qui raconte ce qui s'est passé dans un petit village des Alpes de Haute-Provence au moment du coup d'État de Napoléon III, qui est un village républicain qui défendait la République et qui s'est opposé au coup d'État, et où les hommes sont tous raflés et les femmes restent entre elles, un peu loin de tout dans le village, et désespérant de voir leurs hommes revenir un jour ou l'autre, parce qu'elles n'ont aucune nouvelle, elles font un pacte entre elles, elles se disent que pour la survie du village, si jamais un homme passe un jour dans le village, il faudra que ce soit l'homme de toutes les femmes. Voilà. Et un jour, un homme arrive. Voilà, donc ça, c'était mon premier film. Et actuellement, je suis en écriture de différents projets. Voilà. Par rapport à cette question un peu identitaire, le premier personnage de cinéma auquel je me suis vraiment fortement identifiée, j'étais petite, hein, j'étais même pas encore au collège, j'avais 9 ans, et j'ai eu un sentiment total d'adhésion et d'identification au personnage de l'effronté joué par Charlotte Gainsbourg.
Mais c'est nul, ça m'ira jamais. Ah, tu verrais les affaires de Clara, hein, t'y croirais pas.
Eh ben, tu sais ce que je crois, moi, c'est que ta Clara, elle t'a rien promis du tout. Et que tout ça, c'est des rêveries dans ta petite tête de folle.
Ben attends, tu verras, attends.
Mais pourquoi tu discutes avec moi? Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête.
Magnifique film sur l'adolescence, voilà, le passage de l'enfance à l'adolescence, et qui a fait la renommée de Charlotte Gainsbourg, enfin, qui a fait le début de sa carrière.
Et toi, Sabrina ?
Alors, moi, donc, je suis Sabrina Bécarine, je suis scénariste pour la télé et le cinéma. En télé, donc, j'ai participé à l'écriture de Fais pas ci, fais pas ça, et de 10% sur toutes les saisons. Et en cinéma, j'ai coécrit avec Alice Vial le film Les Innocentes, réalisé par Anne Fontaine. Et plus récemment, le film La dernière vie de Simon, que j'ai coécrit avec Léo Carman, qui l'a aussi réalisé. Voilà. Et alors moi, j'ai deux personnages auxquels je pense, alors qui ne sont pas mes premiers, parce qu'en fait, je crois que si je me suis identifiée à des personnages petites, je ne l'ai pas conscientisé, donc je ne m'en souviens pas. Ça m'a, en tout cas, ça m'a pas marqué. Mais alors, le dernier, enfin, j'en ai deux. J'en ai une qui existe et sur qui j'ai créé un biopic, qui est Mileva Maric, la première femme de Albert Einstein, en fait. C'est un film qui s'appelle Madame Einstein. Et je me suis identifiée très, très fortement à elle. Ça, en fait, son histoire m'a bouleversée et du coup, j'ai créé un biopic sur elle. Et un autre personnage complètement différent, c'est Elsa dans La Reine des Neiges.
Ah ouais ?
Et ouais, il s'est passé un truc en moi.
C'est vrai ?
Il s'est passé un truc en moi. Ouais. Et je la trouve absolument fascinante et je pense qu'elle répond à des choses que moi j'ai pu traverser émotionnellement. Et j'ai pas eu la force de le chanter aussi fort qu'elle en gravissant la montagne. Voilà. Et je pense que ça m'a vachement, ça m'a vachement interpellée. En fait.
Libérée, ouais. Délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je mentirai.
J'adore les personnages Disney, notamment les récents. Et je trouve qu'ils osent aller beaucoup dans la métaphore. Et je crois que c'est ça qui me touche, quoi, parce qu'ils vont dans la magie, ils vont dans des choses qui du coup, moi, me touchent, peut-être de manière indirecte, en fait. C'est pas très cérébral ni frontal. Et du coup, je pense que ça s'autorise à aller à des endroits où je pensais pas que ça irait. Et voilà, donc c'est vraiment un personnage que j'adore, ouais.
C'est génial. Ouais. Bah, je suis très contente, en tout cas, de vous avoir toutes les deux. Exceptionnellement, aujourd'hui, l'épisode affiché sera pas qu'un seul débat, mais ce sera aussi une sorte de masterclass où vous nous donnerez un peu vos trucs et astuces pour écrire un bon personnage, et par extension, un bon personnage féminin. Puisque, il faut dire, parfois, on en manque. Du coup, avant de définir ce que c'est qu'un bon personnage féminin, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais personnage féminin, selon vous ? Marine ?
C'est difficile de mettre, en fait, une étiquette sur un personnage, parce que, justement, je crois que toute la construction de l'écriture, c'est de pas mettre d'étiquette sur un personnage et de surtout pas aller dans le stéréotype. Et je crois que ce qui a été un peu compliqué pendant plusieurs années dans la représentation des femmes à l'écran, que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est qu'on a souvent fait des caricatures de femmes, et surtout vu d'un point de vue masculin, parce que c'est essentiellement des réalisateurs qu'il y a derrière la caméra. Donc un mauvais personnage, pour moi, c'est une caricature. C'est quelqu'un qui n'a pas d'aspérité, c'est quelqu'un qui est d'un bloc, qu'on ne voit pas évoluer dans le trajet de la narration du film. Qui nous surprend pas. Enfin voilà, pour moi c'est ça un mauvais personnage. Après, à l'opposé de ça, arriver à trouver ce qu'est un bon personnage ou comment bien le représenter, il n'y a pas de formule en fait. Je pense qu'il n'y a pas de formule. Et s'il y avait une formule, ce serait terrible, ce serait horrible même, parce que ça veut dire qu'on serait tous sur les mêmes canevas et puis on suivrait tous la même façon de définir un personnage. Moi, ce que je trouve intéressant quand je vois un film et que le scénario, je trouve, ressort dans sa qualité très fort dans le film, c'est quand le personnage me surprend et quand il y a une subtilité qui le définit. C'est-à-dire quand on sort des gros traits de caractère qui sont des évidences. Quand on quitte l'évidence, là, je trouve qu'on arrive à quelque chose qui devient un vrai personnage travaillé en profondeur, avec toute la difficulté aussi d'arriver à cerner un personnage sur des petites touches, des gestes. C'est pas forcément dans la parole, d'ailleurs. Hein. Un personnage n'est pas que existant, n'est pas que présent par ce qu'il dit. Il est présent énormément par ses silences, par ses gestes, par son corps. Donc, un bon personnage, c'est aussi, voilà, c'est aussi évidemment une grande partie de ce qui s'écrit. Et puis après, c'est vrai que, comme moi, je réalise aussi, pour moi, la suite, c'est vraiment aussi ce qu'on va en faire après sur le tournage, avec évidemment le choix du casting qui est déterminant. Et puis après, comment on construit avec le comédien toutes les aspérités du personnage. Donc, je trouve ça très compliqué. Enfin, je ne sais pas, Sabrina, ce que tu en dis, toi, mais je trouve ça très compliqué de définir ce qu'est un bon et un mauvais personnage, parce qu'il n'y a pas justement d'étiquette à coller.
Mais je suis très d'accord avec toi. Et pourtant, tu dis que c'est compliqué. Pourtant, tu l'as très bien fait. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation qu'il y a une réponse simple qui peut être complexe derrière. Mais là, c'est comme tu dis, c'est que pour moi, un mauvais personnage féminin, c'est la même chose qu'un mauvais personnage masculin. C'est un personnage qui n'est pas caractérisé, en fait. On reste en surface. Du coup, tout est cliché, il n'y a pas forcément de cohérence. Et c'est comme un peu comme avec les gens dans la vie. Je veux dire, si on n'apprend pas à les connaître, on peut être très facilement dans le jugement, dans la projection. Et plus on les connaît, plus on va les comprendre, plus on va être avec eux. Et pour moi, un personnage de film, c'est exactement ça. Donc pour moi, un mauvais personnage, c'est juste un personnage qui n'a pas été assez travaillé. Tout simplement, c'est facile à dire. Et après, il faut aller bien le travailler. Et ça, c'est notre histoire.
Et pourquoi, à votre avis je ne sais pas s'il y a plus de mauvais personnages féminins, mais en tout cas, en tant que femme, on a l'impression parfois de ne pas se sentir représentée autant que les hommes à l'écran. Vous parlez aussi du male gaze et du female gaze. Le male gaze, c'est la critique de cinéma Laura Mulvey qui a théorisé ça dans son essai Visual Pleasure and Narrative Cinema. Ça désigne le fait que la culture visuelle dominante, donc les magazines, la photo, le cinéma, la pub, les jeux vidéo, les bandes dessinées, etc., imposerait au public d'adopter une perspective d'homme hétérosexuel. Du coup, on parle de male gaze quand la caméra s'attarde, par exemple, sur les formes d'un corps féminin, qu'on se sent en fait mise à la place de l'homme. Et le male gaze est insidieux parce qu'il opère également et surtout dans les œuvres destinées aux femmes. Tout ce qui est rom-com, etc., c'est très male gaze. Mais à l'inverse, on a aussi le female gaze, qui est une proposition de la même critique de cinéma, Laura Mulvey. C'est une théorie féministe sur le cinéma qui représenterait le regard de la spectatrice. Et ensuite, ça s'est référé à la perspective qu'une cinéaste, ou une réalisatrice, ou une scénariste, ou productrice du film apporte comme point de vue différent d'une vision masculine sur le même sujet. Est-ce que vous sentez-vous appartenir au female gaze aujourd'hui? Est-ce que c'est important pour vous? C'est quelque chose auquel vous réfléchissez?
Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, sur le fait qu'en effet, il y a beaucoup plus de représentations masculines au cinéma. En fait, je pense que ça vient du fait qu'on écrit beaucoup ce qui nous ressemble, on écrit beaucoup qui on est, et il y a juste beaucoup, beaucoup plus d'hommes hétéros blancs qui font des films. Que d'hommes homosexuels ou que de femmes ou que de, enfin c'est en fait c'est très très dur de se détacher de qui on est quand on écrit et de pas aller dans les, j'ai envie de dire clichés, c'est pas forcément cliché mais c'est aussi naturel et normal aussi de vouloir écrire ce qui nous ressemble et qui on est. Et c'est vrai que moi je préfère écrire des personnages féminins, mais tout simplement parce que sans dire que je m'identifie plus, parce que je pense que je peux m'identifier à des personnages masculins quand ils sont bien caractérisés et que ça va plus profondément que juste des faits, on va dire, un peu caricaturaux, comme on pouvait dire tout à l'heure. Mais ouais, moi, j'ai besoin de modèles, en fait. Moi, je sais que le cinéma et la télé m'ont beaucoup apporté dans ma jeunesse aussi pour... comme des références aussi que je pouvais peut-être ne pas forcément avoir dans la vie, tout ça. Donc, je sais que quand je conscientise, c'est quelque chose que je me dis que j'ai envie d'apporter aussi aux spectateurs et aux spectatrices. Et je dirais que j'ai une préférence pour les personnages féminins parce que je sens qu'il y a quelque chose qui résonne en moi aussi. Je projette en fait, je mets de moi dans les personnages, mais je peux aussi mettre de moi dans les personnages masculins.
Ouais, mais ça c'est hyper intéressant. Et moi je sais que c'est quelque chose que je fais aussi. Et je sais pas si toi aussi, Marine, mais moi je peux complètement m'identifier à un personnage masculin. Et j'ai l'impression que c'est rarement le cas, mais c'est sûrement peut-être à cause du male gaze, mais. Que je pense à mon frère qui regarderait une comédie romantique, serait incapable de s'identifier à une femme ou dans un autre personnage féminin. J'ai l'impression qu'il y a un côté, comme c'est une femme qui lead le film, c'est un film de fille et donc les hommes ne veulent pas s'identifier parce que c'est aussi très caricatural.
J'ai un point de vue assez mitigé sur cette question-là. Enfin, pas mitigé, mais. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que moi, j'essaie vraiment toujours de faire attention de ne pas être dans des archétypes ou d'être dans le courant dominant du moment ou de se dire « Ah bah oui, c'est vrai, c'est évident, on manque tellement de regards féminins aujourd'hui, donc c'est vraiment ça qu'il faut privilégier ». Évidemment que je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de place faite aux femmes dans tout le secteur cinématographique, comme ailleurs d'ailleurs, pas seulement, mais enfin là on parle de ça. Et ça, évidemment qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, et évidemment qu'il y a cette question de quotas qui se pose, alors même que moi, fondamentalement, je suis contre les quotas, mais je suis forcée de me rendre compte que si à un moment on ne met pas un peu des quotas, bah, les lignes ne bougent pas. Donc, de par les faits, on est bien obligé de constater qu'à un moment, il faut en tout cas peut-être passer par des quotas pour arriver à faire bouger les choses. Mais après, moi, j'ai été bouleversée, transformée dans ma vie par des personnages féminins écrits et réalisés par des hommes. Donc, il peut y avoir une très, très grande justesse d'un regard masculin sur un personnage féminin.
Et lequel, par exemple
Par exemple, Claude Sautet, dans ses films qu'il a fait avec Romy Schneider, c'est magnifique. Alors, évidemment que c'est un travail qui se fait à deux. Donc ça, c'est hyper riche et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un homme ou une femme. Pour moi, à un moment... Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans toutes les questions qui nous traversent en ce moment, c'est de se dire qu'on met des étiquettes sur le masculin et le féminin. C'est ça notre problème, c'est dans ce qu'on y met. Mais ce n'est pas la personne. la personne, elle est ce qu'elle est, et si elle est intelligente, et si elle est riche, et si elle est ouverte, son regard va être intéressant. Après, ce qui pose problème, c'est effectivement si on donne beaucoup de place à des hommes qui sont pas très subtils, pas très intelligents dans leur regard sur les personnages féminins, et qui font des femmes des caricatures. Le problème, il est là. Mais il n'est pas dans le fait d'être masculin ou féminin, parce qu'on est tous un mélange de masculin et de féminin. Et donc, je trouve qu'à un moment, il faut arriver à comprendre que En voulant aussi faire des catégories, en disant, oui, il y a le female gaze et le male gaze et tout ça, on joue nous-mêmes le jeu de remettre des étiquettes sur ce qu'on essaie de déconstruire. Donc, je pense qu'à un moment, c'est important de se dire que ce qui compte, c'est l'ouverture d'esprit et la subtilité dans la façon d'aborder les histoires et non pas juste de dire, est-ce que c'est un homme ou une femme qui est derrière. Par contre, après, la réalité, c'est que dans les faits, oui, on manque de femmes. Concrètement, on a les chiffres aujourd'hui, on a fait des études larges, personne ne peut le nier. On manque de femmes derrière la caméra, on manque de femmes à l'écriture, on manque de femmes dans les histoires elles-mêmes, aussi avec les âges des femmes, parce qu'il y a aussi toute cette histoire qui traîne sur le fait de dire une femme, elle est intéressante quand en fait elle est désirable, hein, donc entre 15 et 40 ans, puis après on n'a plus trop envie de la voir. Ça, c'est un peu ce qui a existé pendant très longtemps dans les récits. Donc aujourd'hui, le rôle des femmes qui sont dans toutes les étapes de fabrication d'un film, c'est aussi de dire, ben non, une femme qui a 50 ans, elle peut être super intéressante et elle peut remporter l'adhésion des spectateurs. Il faut emmener tout le monde à sortir des étiquettes, quoi. Et le rôle des femmes aujourd'hui, peut-être, c'est aussi d'arriver à discuter beaucoup avec les hommes, non pas à les rejeter, mais à discuter beaucoup avec les hommes pour essayer d'interpréter autrement le regard sur le masculin et le féminin et de sortir des cases dans lesquelles on a essayé de dessiner les codes dans la société et qui se retrouvent après, évidemment, dans les représentations théâtrales, littéraires.
Je ne sais pas si vous avez vu ce film récemment sur Netflix qui s'appelle Malcolm and Mary. Et c'est un vraiment super film d'un réalisateur blanc, un mec... je ne sais pas quel âge il a, Sam Levinson, mais il doit avoir une quarantaine d'années. Et en fait, c'est l'histoire d'une déchirante dispute d'un couple. C'est un réalisateur noir qui sort d'une soirée où il a été récompensé. Et donc, il sent que c'est le premier film qu'il fait et où il a enfin reçu des bonnes critiques. Donc là, il y a un tournant qui se passe dans sa vie. Et donc, il parle avec sa compagne, qui est Zendaya. Et c'est vraiment... extrêmement bien écrit. Enfin, moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient d'une puissance et que ce personnage féminin, justement, était incroyablement profond. Et lui aussi, hein, c'est John David Washington qui joue le mec, enfin Malcolm. Et en fait, Zendaya a vraiment pris parti dans l'écriture de son personnage. Et je trouve ça intéressant, cette collaboration entre actrice ou acteur et réalisateur et scénariste. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous sentez émerger ou
la collaboration, ouais, des acteurs avec sur le scénario,
ouais, et puis même du scénariste, enfin c'est est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie collaboration entre toutes ces personnes là ou...
Alors, malheureusement pas assez, enfin en tout cas assez. C'est du point de vue de, enfin moi je suis scénariste et je ne réalise pas. Généralement, quand les acteurs sont là, je les rencontre très peu, il y a très peu d'échanges, et c'est quelque chose que je déplore, parce que je trouve ça dommage. Je trouve qu'on fait des métiers assez similaires entre les créateurs de personnages et ceux qui vont les interpréter, ouais, dans le qu'est-ce qu'on va chercher en nous, tout ça, et je pense que le dialogue pourrait être très très riche s'il était un peu plus présent. Alors après, évidemment, il y a des réalisateurs qui écrivent, donc c'est encore autre chose. Mais je pense que, quelle que soit la position dans le cinéma, je pense que, et même en télé, on a tous intérêt à ouvrir un peu plus les portes et à communiquer un peu plus et à discuter un peu plus, comme tu disais, du rôle de chacun, de ce que ça nous fait, de tout ça. Je trouve qu'on est, on est trop fermé, on n'est pas assez dans l'œuvre collective, il y a quelque chose qui manque un petit peu. C'est mon ressenti pour le moment. Ouais, moi, j'adorerais pouvoir discuter avec les acteurs, les actrices, sans les diriger, mais juste parler en fait des personnages, des thématiques qui sont abordées, de débattre tout ça pour voir comment ça peut enrichir les projets, comment ça peut... Et non, c'est pas très courant malheureusement, mais peut-être que ça viendra. Hein.
Mais ce qui manque aussi souvent, c'est le temps, quoi, en fait. C'est le temps... Parce que le temps d'écriture, il est souvent assez long, mais alors par contre, une fois que la mise vraiment en production commence et que la préparation commence, les temps sont réduits au maximum, tout le monde court après le temps. Et du coup, même le réalisateur, souvent, il manque de temps pour travailler en amont avec ses comédiens. Encore faut-il que les comédiens soient libres au moment de la préparation, qu'ils soient libres au même moment, etc. Et puis en France, on n'a pas tellement, quand même, encore, cette habitude qui, du coup, je pense, manque au projet, surtout maintenant que les temps de tournage sont raccourcis. C'est de se dire que la préparation, c'est un vrai temps de travail aussi avec les comédiens. C'est pas qu'un temps de travail avec les techniciens, quoi, pour trouver les décors et définir les costumes, etc. C'est normalement un vrai temps aussi de travail avec les comédiens et sur le tournage. Mais on court après le temps toute la journée. Alors évidemment que la place du scénariste au milieu de tout ça, c'est très compliqué, quoi. Ou alors aussi, il peut aller un peu dans les loges, parler avec les comédiens quand ils attendent de tourner. Ça peut être un moment où il y a un échange, mais bon, évidemment que, enfin, il va pas être là tous les jours, quoi. Ça peut être une journée ou deux comme ça. Après, sur un tournage, quand on n'a pas vraiment quelque chose à faire, on se retrouve un peu comme ça, potiche. Ça peut être assez désagréable, même comme position. Donc, c'est une façon de travailler qui pourrait évoluer, je pense, mais sur le temps de préparation des films. Mais comme la tendance, elle est à raccourcir tous les temps, j'ai pas l'impression qu'on aille vraiment dans ce sens-là. Après, chaque projet est un prototype, oui, chaque projet est différent. Et à chacun d'essayer d'inventer aussi sa façon de travailler.
Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de votre façon de travailler. C'est quoi votre processus de création quand vous écrivez un personnage, du coup, qu'il soit féminin ou non? Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous redoublez de vigilance quand il s'agit d'une femme? Pour quelles raisons? Mais c'est quoi votre point de départ et votre point d'arrivée?
Moi, mon point de départ, ça c'est dû à l'expérience, parce que c'était pas le cas au début, c'est je me demande en quoi ce personnage me ressemble. Okay. Parce que j'ai assez vite compris que je mettais beaucoup de moi dans mes personnages, et ça m'a permis de raccourcir le temps d'écriture de manière assez considérable, de le conscientiser, parce que du coup, c'est la première question que je me pose. C'est qu'est-ce que je traverse en ce moment qui fait que je vais mettre de moi dans ce personnage, et du coup, en quoi ça résonne. Et des fois, il y a... C'est souvent le personnage me précède souvent. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai envie d'un personnage de manière très forte. Et du coup, je me dis, mais pourquoi j'ai envie de ça? Pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire? Et du coup, je vais chercher en quoi ça résonne en moi. Et du coup, quand j'ai trouvé en quoi ça résonne en moi, je peux lui apporter toute une autre dimension. Enfin, pour moi, c'est une vraie nourriture réciproque. Et c'est en ça, moi, c'est un travail que je fais qui est pour moi indispensable. Parce que c'est ça qui fait que je sais que le personnage ne va pas être creux, en fait. Parce que je sais que j'y mets quelque chose de moi qui me touche et qui est au-delà de la surface, parce que c'est pas forcément des choses qui vont être dites non plus. Mm-hmm. Mais je sais que c'est ce qui va driver le personnage et son évolution. Et en fait, tant que ça vibre pas dans mon ventre, en fait, pour moi, j'y suis pas. Donc c'est vraiment la clé pour moi au début, c'est ça. Et après, là où je fais plus attention dans les personnages féminins, c'est vraiment dans la rédaction. Parce que je me suis rendu compte que des fois, il y avait ce vieux réflexe de dire... Alors tel personnage, alors elle est belle, elle est machin et tout, et ça je ne l'écris plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de caractéristiques physiques, sauf si ça vient alimenter la dramaturgie, mais il n'y a plus de caractéristiques physiques, il y a éventuellement à peu près une tranche d'âge, si vraiment c'est nécessaire, parce que voilà, mais j'arrête là en fait, je laisse les gens projeter, je laisse... Et j'avais moi ce réflexe, je me rends compte, de la description du personnage féminin dans son physique, et le personnage masculin c'était un peu différent, c'était plus dans ce qui dégageait, plus dans... mais complètement dans les clichés... Et un jour, je m'en suis rendu compte, c'est en lisant le scénario d'une amie ultra féministe qui écrivait, alors elle est belle, machin et tout. Je fais, mais non, comment tu peux, enfin. Et du coup, je fais attention à ça dans la forme, en fait. Et je fais aussi attention dans les dialogues, dans les. Mais c'est des choses subtiles. Mais par exemple, c'est un exemple vraiment qui n'est pas forcément en lien, mais pour montrer. C'est par exemple, si moi je suis végétarienne, dans les films que j'écris, les gens mangent pas de viande. Mais c'est pas dit. Mais c'est juste des messages comme ça qui sont passés un peu partout. Et je pense que c'est pareil par rapport aux valeurs, par rapport aux femmes, aux hommes, aux féminins, aux masculins, tout ça. Il y a des choses qui sont, je trouve, qui peuvent être, déposées dans un scénario et dans un film sans que ça soit dit, sans que ça soit affiché de manière...
Oui, presque inconscient, voilà. En fait.
Et de juste de dire, chez nous, c'est normal, c'est comme ça. Mais on va parler d'autre chose en surface, mais dans le fond, c'est quand même bien posé, quoi. Et j'ai revu Titanic il n'y a pas très longtemps,
ouais.
Et je me suis rendu compte que c'était ultra féministe.
Ah ouais ? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah ouais,
et j'avais jamais posé ce regard dessus, et dans toutes les scènes, et c'est hyper intéressant, parce que toutes les scènes de troisième classe, les hommes sont hyper vigilants par rapport aux femmes. C'est quand il y a la scène de danse, C'est est-ce que je peux mettre ma main là? Est-ce que ceci
un respect? Ah, il y a une notion de consentement.
De consentement. Et en première classe, c'est vas-y, fais ça, machin. C'est... En fait, c'est... je ne sais pas si c'est conscient de la part de James Cameron, mais c'est ultra présent et moi, je ne l'avais jamais remarqué. Okay. Et je sens que c'est quelque chose qui commence à me... moi, à me toucher parce que je le sens maintenant dans les films. J'ai revu pareil, j'ai revu Love Actually.
Oui.
J'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté.
Mais d'ailleurs, on a
filmé. Mais une honte en fait. Enfin, tu sors de là en tant que femme, tu fais pas une taille 36.
Ouais.
Tu te dis mais à quoi je sers sur cette planète en fait. Enfin, c'est là. Enfin, là, c'est terrible quoi. Et avant, j'adorais ce film.
Ah
et
ouais.
Bah, j'ai pu le regarder.
Mais d'ailleurs, on a fait un épisode d'Affiché où on fait en fait des procès des films aussi et des séries. Et donc moi, je devais défendre Love Actually et j'avoue que c'était difficile parce que. Parce qu'à part d'être un bon souvenir d'enfance lié à Noël, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est terrible.
C'est que ça. Et tout le film, c'est que ça. Tous les personnages féminins sont associés à leur corps, à leur âge et à leur... Mais tous, en fait.
Mais ça, je pense que c'est en train doucement quand même de bouger, mais vraiment, par contre, profondément, je crois.
Ah, mais oui.
Mais en revanche, moi, ce que je trouve compliqué quand on écrit... c'est pas le processus en soi qu'on a dans notre tête, voilà, qui est un processus de fabrication auquel tout le monde est confronté, c'est-à-dire arriver à trouver la cohérence du projet, l'évolution de votre personnage, etc. Mais c'est plus d'arriver à ne pas être brouillé, envahi par toutes les remarques que vous avez déjà entendues plusieurs fois et que vous savez qu'on va encore vous répéter, quoi. Alors que ce soit sur les représentations... des différentes nationalités, quoi, ou des couleurs de peau, quoi, ou que ce soit même certaines fois dans des thématiques abordées. Et moi, je suis en train d'écrire trois projets qui sont totalement différents. Et de temps en temps, à certaines étapes, je les fais lire à des amis qui sont à différents endroits dans la fabrication des films. Et elles me disent, bah là, oui, ton projet, il est super, moi j'adore et tout, mais je suis sûre que tu vas avoir des problèmes avec cette thématique-là au niveau commercial, quoi, ça va tiquer. Donc en fait, c'est
par
ça
exemple,
le problème.
Quel genre de thématiques sont plus problématiques au niveau commercial?
Bah, ça peut être plein de choses. Bah, déjà, ça peut être le fait d'avoir effectivement un personnage qui est un peu âgé.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont plutôt d'un âge avancé, qui vont au cinéma, qui remplissent les salles. Donc, il y a un regard qui s'ouvre un peu parce qu'on se dit, maintenant, il y a un public. Mais malgré tout, c'est quand même pas quelque chose qui est bien perçu. Hein. Si vous venez avec un personnage féminin qui a 50 ans, bon, moyen, quoi. Hein. On préférera quand même, si ton personnage, il a 30 ans, c'est quand même plus fun, c'est quand même plus un peu plus dynamique. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là, ces étiquettes-là, même inconscientes, sont très, très fortes chez les gens qui après, doivent être décisionnaires sur le fait que le projet se fait ou pas. Et puis après, il y a des caractères, dès que vous essayez de sortir quand même des sentiers battus, alors soit des définitions de personnages qu'on connaît très bien, qui sont très bien identifiées, qu'on a déjà vues 40 000 fois, soit quand vous sortez aussi des thématiques du moment, parce qu'il y a quelque chose qui est très présent dans le cinéma et à la télé, je pense encore plus actuellement, mais qui n'est pas nouveau, mais j'ai l'impression qu'il s'accentue, c'est qu'on aime bien que les gens écrivent des films sur les thèmes du moment, comme un peu un travail journalistique. Alors, de la même façon que là, ça s'est un peu apaisé ces dernières années, mais pendant 10-15 ans, si vous aviez envie de faire un film d'époque, vraiment, les producteurs, les chaînes, tout ça, elles vous disent « Non, mais ça ne va pas, un film d'époque, personne n'a envie de voir un film d'époque. » C'est-à-dire, il y a des a priori tout le temps qui bougent, hein, pas sur les mêmes choses. Mais sur le fait que soit ce type de personnage, soit ce type de sujet ne plairait pas aux spectateurs. Et je trouve que pour ça, c'est bien que des... Parce que je pense qu'il y a un enjeu très fort dans le cinéma ou la télé, c'est-à-dire dans la production audiovisuelle qui est vraiment faite pour le grand public, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, où il y a eu vraiment des prises de conscience et des mouvements qui ont poussé à faire bouger les choses. Et ce qu'a fait Disney avec Pixar... a été, je pense, énorme, vraiment énorme, sur l'ensemble de la production audiovisuelle et cinématographique. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont vraiment fait bouger les lignes de la façon de définir les personnages. Je pense que ça a un impact énorme sur les jeunes générations. Et ça a permis, comme c'est des films qui remportent l'adhésion, de toute façon, tout le temps, ils se sont aperçus qu'on pouvait sortir des clichés, sortir de ce qu'on on a vu pendant 30 ans, et que l'adhésion était toujours là avec le public.
Ouais, ils ont le pouvoir de donner une impulsion, quoi.
Voilà. Et du coup, voilà. Et on voit qu'à la télé, c'est pareil. À la télé, il y a des choses qui sont en train de se diversifier. Il y a des représentations de personnages qui sont en train de bouger, etc. Enfin, tout ça est en train de bouger. Vraiment, on est dans une période, je pense, de transformation. Alors, ça se fait doucement, mais ça se fait vraiment.
Mais après, comme tu dis, il y a beaucoup de bonnes surprises, notamment ton film, c'est quand même l'écriture d'un film entièrement composé de femmes, à part par le personnage d'Alban Lenoir, avec des femmes d'âge différents. Donc j'imagine que ça vient de là aussi, ton problème de pousser ça. Mais après, j'ai l'impression qu'il a quand même été très très bien reçu par la critique.
Oui, bah, il a eu... Bon, après, les histoires des films, elles sont complexes, elles sont liées à plusieurs éléments. Mon film, il a essentiellement fait un très beau trajet à l'international. Mais en France, il a été sorti à la va-vite, au mauvais moment. Enfin bon, donc en fait, il n'a pas pu aller au public en salle. Il y a eu une toute petite sortie. Heureusement, il avait été après acheté par Canal+, du coup, il a pu quand même être diffusé dans un deuxième temps à une plus large échelle. Mais en même temps, bon, moi, c'était une adaptation. Je partais d'un livre qui était très mince et qui est plus un texte poétique que vraiment une narration romancée, mais qui, je trouve, enfin moi, qui m'a touchée à la fois à titre personnel, parce que en fait, je l'ai lu au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et comme c'est sur la thématique de la féminité, du désir et du rapport à la maternité, et du sens que ça peut faire dans la vie d'une femme, voilà, ça résonnait hyper fort en moi à ce moment-là. Et en même temps, comme ça, je trouvais que ça avait une résonance à la fois extrêmement juste et extrêmement pertinente avec justement tout ce qui est abordé un peu en ce moment, depuis quelques années, autour de la place des femmes, de la liberté de concevoir un enfant, etc. C'était en résonance extrêmement juste et en même temps avec un background historique différent qui permettait de montrer aussi qu'à travers les époques, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, y a toujours eu des personnages de femmes très fortes qui ont défendu leur liberté, qui ont trouvé des solutions dans leur vie pour vivre le plus librement possible. Et que ça donnait un exotisme un peu à ces questions et une distance qui était un peu différente que si ça avait été une narration contemporaine. Donc c'était, au lieu de se passer dans un pays étranger, ça se passait dans une époque différente. Et du coup, je trouvais que ça permettait d'aborder les sujets sous un biais un peu différent et avec un peu plus de distance.
Et toi aussi, Sabrina, niveau diversité, on a vu que dans 10%, il y avait un personnage donc lesbien, le personnage de Camille Cotin. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être une des premières fois qu'à la télé française, il y a un personnage ouvertement lesbien. Parce que je sais que le mot lesbienne est très tabou en France par rapport aux gays, aux homosexuels hommes. Comment ça s'est passé, cette écriture de ce personnage aussi? Est-ce que ça a été difficile?
Alors, quand je suis arrivée sur la série et le pilote, c'était déjà posé qu'elle était lesbienne. Après, il y avait une vraie question qui se posait sur est-ce qu'elle assumait ou pas. En fait, et on a beaucoup discuté de ça, de dans quelle situation elle était, est-ce qu'elle se cachait par rapport à ses collègues, parce que qui savait pas ça. Et je me souviens qu'un jour, on s'est dit mais en fait on s'en fout, on n'a pas envie que ça soit le sujet en fait. C'est quoi, elle est lesbienne, elle est heureuse et machin. Et puis on va parler d'autres choses en fait. Et c'est ce qui s'est passé et ça nous a libérés. Mais alors, et c'était génial en fait. Et après ça devient un sujet quand elle tombe enceinte. Par rapport à Colette et au fait de vouloir que Colette veuille adopter et être la deuxième maman. Mais avant, c'est juste, elle est comme ça, quoi, c'est tout. Fin. Et c'est pas un sujet. Et pour moi, c'est ça aussi, la modernité, c'est de créer des personnages dont que ce soit leur sexualité, leur genre, ou ça on n'en parle plus, en fait. Et on aborde d'autres sujets. Et ça, pour moi, c'est une étape, j'ai l'impression, dans la fiction. C'est vraiment c'est quand ça commence à devenir normal, en fait. Et quand on pose que c'est normal dans la fiction, pour moi on envoie un message aussi aux gens qui regardent, et peut-être plus aux jeunes d'ailleurs, leur dire oui, en fait c'est normal, tu peux être lesbienne sans que ça soit un problème, tout va bien, tu peux avoir quelqu'un aussi qui te représente à la télé et c'est normal, c'est une héroïne comme les autres.
Oui, et puis c'est une héroïne forte, ouais, de la série, quand même. Du coup, on parlait aussi un petit peu du fait est-ce qu'il faut ressembler à aux personnages pour les écrire. Et moi, il y avait un exemple qui m'a frappée, c'est Xavier Dolan, qui donc est un réalisateur québécois. Et moi, enfin, pour le coup, je pense que le premier personnage féminin pareil, quand j'étais petite, je me souviens pas si je me suis identifiée, mais ce personnage-là dans Mommy de Anderval m'a vraiment bouleversée, alors que je suis ni mère, ni j'ai 50 ans, ni rien, et je me suis dit, mais il y a un truc, il arrive à écrire des personnages, alors que lui est un homme, donc il a écrit une femme hétérosexuelle, et lui, c'est un homme gay. À quel point vous mettez du vôtre? Est-ce que vous êtes capable de vous projeter dans des personnages qui vous ressemblent pas du tout, mais qu'est-ce que vous y mettez du coup?
Pour moi, il y a une notion du coup dans un personnage qui nous ressemble, c'est à quel niveau? C'est-à-dire que moi, en surface, si tous les personnages que j'écrivais devaient me ressembler en surface, ce seraient tous les mêmes. Donc ce serait inintéressant au possible. Et j'écrirais toujours les mêmes films, les mêmes. Et je pense que, en fait, je pense qu'on est très très riche à l'intérieur. Qu'il y a en nous des facettes multiples et pas que des facettes de ce qu'on a à l'extérieur. C'est-à-dire que je pense que quand tu parles de Dolan, enfin. Il a en lui une mère cinquantenaire parce qu'il a eu une mère. Enfin, tout simplement, en fait. C'est forcément des choses qu'on a enregistrées en nous et qui sont des facettes de nous. Et
il faut une grande empathie quand même pour réussir à le retranscrire.
Un regard sur le monde aussi, sur les autres. C'est-à-dire à quel point on est capable de regarder les autres et d'essayer de les comprendre. Et pas seulement de les juger ou de les mettre dans des cases. Et à partir du moment où on est quelqu'un qui s'intéresse aux autres et qui a de l'empathie avec les autres et qui réfléchit sur comment les autres sont par rapport à soi-même, du coup, ça nous nourrit après dans l'écriture pour créer, trouver la cohérence d'un personnage. Parce qu'évidemment, dans un film, si les personnages se ressemblent, ça n'a aucun intérêt. Donc, on met toujours de soi. Mais après, il faut arriver à définir des personnages variés et on s'enrichit. Mais on s'enrichit de tout, de livres qu'on lit, de films qu'on voit, de gens qu'on connaît, de situations dont on est témoin dans la rue. Enfin, ça peut avoir plein d'échelles. Mais il faut avoir de l'intérêt pour l'autre et avoir envie de se questionner sur pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il ressent, essayer de le comprendre, quoi, d'avoir une empathie, une volonté de s'ouvrir à lui, et non pas juste de le regarder en le condamnant ou en portant un jugement comme ça.
Et dans la dernière vie de Simon, il y a donc le personnage principal qui est Simon, que tu as écrit, Sabrina. Qu'est-ce que tu as, par exemple, projeté dans le personnage de Madeleine, qui est un personnage fort du film?
C'est marrant parce que c'est pas forcément elle que je m'identifie le plus, en premier abord. Pour moi, je suis plus... en tout cas, quand on écrivait avec Léo, on était beaucoup plus tous les deux dans Simon. Et je pense que Madeleine est une autre facette, en fait, qui est presque complémentaire de lui. C'est-à-dire que lui, il a la capacité de changer d'apparence et quelque part d'être immortel, parce qu'il se guérit en fait en changeant d'apparence. Et elle a un cœur fragile, elle a une vie qui est réduite, elle va quelque part dévorer la vie et la vivre, justement vivre vraiment dans ce temps compté, alors que lui, il est immortel et il n'existe pas en fait. Il y a quelque chose de très complémentaire. Et c'est intéressant, cette notion de femme forte, en fait, parce que ça m'interroge vachement. Il y a quelque chose de... Alors, sans parler de Madeleine dans La dernière vie de Simon, mais moi, c'est quelque chose que je suis en train de remettre en question, justement. C'est cette étiquette qu'on colle sur les femmes fortes, c'est quoi une femme forte? Et je me souviens notamment d'un tweet que j'avais vu sur Game of Thrones, je crois, qui parlait d'une série féministe avec des femmes fortes. Et ça m'a énormément gênée, parce que pour moi, les femmes dans Game of Thrones sont toutes des femmes qui ont été abusées et violées, qui sont coupées de leurs émotions, dans la vengeance. Et je me suis dit, mais si c'est ça une femme forte, j'ai pas envie d'être une femme forte, en fait. Enfin, il y a quelque chose... Pour moi, il y a quelque chose qui... Alors, pas dans tous les films, bien sûr, c'est un peu les nouveaux clichés, en fait.
Oui, qui sont d'ailleurs en réaction, parfois, à la volonté d'être à l'égal de personnages féminins. C'est ce que je redisais tout à l'heure, de faire attention à en voulant, soi-disant, sortir du male gaze ou des représentations, on veut tout d'un coup prendre les mêmes appropriations, quoi, et puis tout d'un coup venir les transmettre aux femmes.
Oui,
quoi.
Les coller, et du coup...
Au lieu de dire, nous, on a peut-être des façons un peu différentes d'être, des façons de regarder les choses, et mettons-les en valeur, plutôt que d'essayer de calquer les caractéristiques soi-disant masculines, quoi.
Mais ça, c'est tout un nouveau travail, de nouveaux récits à créer, de nouvelles valeurs à poser, mais qui sont un peu inconnues, en fait. J'ai l'impression qu'on cherche un peu qui on est, tous. Et pour le moment, je trouve que sous couvert d'une modernité chez les femmes, en fait, on cherche de plus en plus à ressembler aux hommes, mais dans un modèle patriarcal qui est pas forcément... qui rend pas forcément heureux non plus les hommes, c'est-à-dire que, mais qui est pour le moment le seul modèle qu'on a. Et je sens qu'il y a... En tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai amené ce livre, Le parcours de l'héroïne ou la féminité retrouvée, que c'est une amie qui me l'a prêté après l'avoir trouvé dans le train. Ça, c'est vraiment tombé du ciel.
C'est le destin.
Ouais. Et en plus, il est en franc, donc c'est vous dire qu'il date un peu. Et pourtant, il est ultra moderne. Et ça parle justement de ces femmes qui, en se voulant modernes, se sont calquées sur le parcours du héros tel qu'on le connaît et qui se sont écroulées à la fin parce qu'au final, elles se sont privées notamment de leur féminité, mais aussi d'autres choses. En fait, j'ai un petit paragraphe que j'aimerais vous lire, qui pour moi est assez révélateur et qui est hyper intéressant. C'est assez court aussi, donc ça va. « Il me semble que l'intérêt profond porté actuellement à la spiritualité féminine est la conséquence directe du grand nombre de femmes qui se sont engagées dans la quête du héros et l'ont trouvée vaine pour elles et dangereuse pour l'humanité. Elles avaient emprunté cette voie parce qu'il n'y avait pas d'autre modèle à imiter. Soit une femme réussissait dans la culture conçue pour et par les hommes, soit elle était dominée et dépendante en tant que femme. Pour modifier les structures économiques, sociales et politiques de la société, il faut maintenant trouver de nouveaux mythes, de nouvelles héroïnes. Et c'est peut-être pour cela que tant de femmes et tant d'hommes se tournent vers la déesse et les anciennes cultures matriarcales afin d'imaginer des modes de société basés sur l'association et non sur la domination, sur la coopération et non sur la cupidité. »
Ah ouais, c'est hyper intéressant.
Et aujourd'hui, le héros est très basé sur un système pyramidal. Il peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir...
Oui, une figure de domination, de toute façon.
Voilà, tout à fait. On est vraiment sur la figure de domination. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'écrouler. Sauf qu'on ne sait pas trop où on va, en fait. Il y a quelque chose... Enfin, on se cherche.
C'est intéressant, du coup. C'est un peu un terrain en friche,
c'est
j'imagine.
C'est hyper excitant.
Bah, c'est accepter de re-questionner les structures sociales, en fait, qui sont les nôtres. C'est-à-dire d'arrêter de penser que forcément, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un chef en haut et puis les exécutants en bas qui obéissent, ce qui est notre façon de fonctionner. Enfin, je veux dire, aussi bien à l'école, où on a l'institutrice qui parle et puis les enfants qui doivent écouter et appliquer ce qu'elle dit, dans les sociétés aussi, enfin, dans les entreprises, etc. On est très habité par ça, c'est sûr. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le petit livre qui m'a porté après à aller vers cette adaptation, alors même que j'étais pas du tout en train de chercher un livre adapté, et que j'étais en train d'écrire un autre scénario, pour le coup, complètement masculin, avec que des personnages masculins. Et donc, j'ai arrêté ce projet, je l'ai mis en stand-by, et je suis partie vers cette adaptation, qui est totalement, dans un univers totalement féminin. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était que, justement... C'est un film choral de femmes avec des générations vraiment du petit enfant à la grand-mère âgée et que tout est remis en cause par la situation dans laquelle elles se trouvent, qui est complètement incarnée par le village où j'ai tourné, qui est un village qui est accroché au bord d'une gorge, donc elles sont au bord du gouffre.
C'est magnifique d'ailleurs.
Voilà, et c'est exactement ce qu'elles vivent. Et du coup, elles sont obligées de re-questionner totalement leur mode de vie et leur mode de pensée. Pas lourdement, pas non plus qu'avec un background politique, parce qu'évidemment que c'est politique, hein, toutes ces questions, elles sont politiques. Politique, ça veut dire pour moi comment on vit ensemble, hein, c'est pas la politique de gauche, de droite, je sais pas quoi, non. C'est qu'est-ce qui fait qu'on trouve des valeurs, des références pour fonctionner ensemble, pour que la société fonctionne. La vraie politique, c'est ça. Et donc, évidemment, quand on pose ces questions, on parle de politique et on questionne sur comment on redéfinit ce qui fait valeur, ce qui fait sens dans une société pour trouver la place de chacun. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans les scénarios aujourd'hui qui n'essaient pas de d'épouser forcément le questionnement de se dire il faut faire plus de place aux femmes, il faut faire plus de personnages féminins forts, mais juste de se dire, tiens, comment on se représente? Comment on représente les femmes et comment on représente aussi les hommes? Parce que moi, et bien sûr que j'ai beaucoup envie de voir des personnages féminins qui nous ont peut-être un peu manqué pendant une certaine période, ou des femmes trop caricaturées, etc. Mais j'ai aussi énormément envie de voir des films portés par des femmes qui vont parler des hommes, c'est-à-dire changer aussi le regard sur les hommes. Accepter qu'on puisse dessiner des caractères masculins différents de ce qu'on a véhiculé pendant aussi très longtemps. Et je pense que c'est les deux mouvements qui doivent s'enrichir les uns les autres. Donc c'est... Alors bien sûr, il faut faire plus de place aux femmes, mais c'est ce que j'avais dit une fois aux assises de 50-50, c'était il y a 2 ans, je crois. Moi, j'avais dit, OK, sur l'idée, peut-être qu'on a besoin des quotas, etc. OK, il faut peut-être s'imposer plus fermement, demander l'égalité partout, du nombre de présence de femmes, etc., pour faire bouger les lignes. Mais j'ai dit, à un moment, on prend les places, d'accord, mais pour faire quoi ? Parce que si c'est pour faire ce que font les hommes, mais juste que ça va être fait par des femmes, ben, je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que moi, je m'en fous, quoi, de savoir si en face de moi, j'ai un homme ou une femme. Moi, ce qui compte, c'est la personne que j'ai en face, et qu'est-ce qu'elle va défendre, et quel est son regard, et comment je vais pouvoir parler avec elle. Mais les rapports sont pas toujours plus faciles pour autant, hein. Et moi, j'ai aussi beaucoup de témoignages autour de moi de réalisatrices ou de scénaristes qui me disent que quand on a affaire à une femme, des fois, c'est pire que d'avoir affaire à un homme. Donc, il suffit pas juste de dire la place, c'est une femme, donc c'est super. Non, non. C'est qu'est-ce qu'on porte, comment on se comporte les uns avec les autres et comment on s'ouvre les uns aux autres et comment on s'enrichit. C'est pas juste une question de le sexe, il est masculin, féminin.
Ouais,
donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Ouais. Voilà, c'est pas une opposition des sexes, moi, je trouve, l'enjeu. L'enjeu, c'est comment on vit ensemble, comment on s'accompagne et comment on sort des étiquettes.
Je suis complètement d'accord. Moi, c'est quelque chose qui me gêne aussi. Enfin, qui me gêne. En fait, ça dépend. Si on met trop d'importance sur la parité, pour moi, ça devient gênant. Et en même temps, je vois comment ça peut... C'est une étape très nécessaire en termes de représentativité. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important que les petites filles aujourd'hui, ben, elles voient qu'il y a des femmes réalisatrices, qu'il y a des femmes politiques... ne serait-ce que pour se projeter, on va dire, de loin. Mais après, en effet, comme tu dis, on est tous très complexes. Il peut y avoir des femmes qui se comportent mal, il peut y avoir des... Et ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les projets, c'est les idées. J'ai parfois fait des sélections de projets pour des associations, tout ça, où la parité était de mise. Et des fois, il y a des projets qu'on ne prenait pas parce que bah, ça ne faisait pas parité, du coup.
Ouais, mais ça, c'est moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est là où ça ne va pas, quoi.
Et ça, ça me dérange parce que pour moi, ce qui compte, c'est le projet. Et il peut y avoir des hommes avec des regards très beaux sur les femmes. Il peut y avoir... Enfin, en fait, et on s'enrichit de ça. Et en même temps, j'entends la nécessité de voir l'égalité, de voir pour pouvoir... Enfin, c'est important.
D'ouvrir les portes, quoi. Mettre un peu le pied dans la porte, parce que, oui, quand on le fait sans... Quand il n'y a pas d'exigence de parité, assez souvent, on a un écart phénoménal entre la place faite aux hommes et la place faite aux femmes. C'est dommage. Moi, je pense qu'on est en train d'en sortir doucement, mais... Voilà, bien sûr que dans les films, on a besoin de faire de la place à des femmes, et puis pas que des femmes fortes, effectivement, pas que des femmes qui sont des battants, des femmes qui sont... Non, des femmes qui peuvent être fragiles, des femmes qui peuvent être... qui peuvent chuter, et tout ça, mais elles sont pas moins intéressantes parce qu'elles chutent et qu'elles sont fragiles, c'est ça qui est intéressant de montrer.
Ouais.
Voilà, justement.
Moi, j'ai un exemple là-dessus, de justement le biopic que j'écris sur la première femme, donc d'Albert Einstein, donc qui sera réalisé par Léo. Et on a découvert, en fait, qu'ils avaient tout fait ensemble. Donc, en fait, c'était un travail d'équipe, n'est-ce pas? Mais comme
elle n'a été pas créditée
au générique.
Ouais, comme Marie Curie, quoi. Ouais. Là, on a mis du temps à reconnaître.
On a mis du temps, mais Marie Curie, elle est quand même... D'ailleurs, elles étaient amies.
Bah déjà, elle a un nom, alors que celle
d'Albert Einstein... C'est une femme qui, au départ, quand elle est arrivée à l'école, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés tous les deux à Polytechnique, ils n'étaient que deux en option physique, c'était eux deux, quoi. Donc, vraiment, le destin les a vraiment poussés à se rencontrer. Et au départ, elle voulait pas se marier, elle voulait faire carrière, elle était vraiment dans cette... Au départ, j'appelais ça le féminisme, mais en fait, je pense pas que ce soit ça, le féminisme. Enfin, en fait, elle voulait ressembler aux hommes, en fait. Donc, dans cette idée patriarcale du succès et de la réussite et d'être... voilà. Et finalement, elle s'est doucement qu'elle est tombée amoureuse d'Albert Einstein. Il y avait une relation un peu...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un peu pervers narcissique, un peu, enfin, c'est un peu fait... En fait, elle s'est fait embarquer dans un truc et par lui et par la société, parce qu'ils ne lui ont pas donné de diplôme, donc elle s'est fait doucement écraser de plus en plus. Et au début, on avait des retours enfin, qui étaient de l'ordre de « mais elle est un peu soumise, elle est un peu machin, on n'a pas trop envie de voir ça ». Je fais « mais je ne vais pas changer l'histoire ». Moi, la façon dont j'ai rebondi, c'est que je me suis dit qu'en fait, on n'avait pas assez d'empathie, on ne comprenait pas assez en fait pourquoi elle s'écrasait et pourquoi... Mais les gens me disaient, mais on n'a pas envie de voir une femme soumise, on n'a pas envie de...
Ouais, moi, j'ai exactement les mêmes remarques.
Hein, ces femmes, elles existent, on ne veut pas les effacer. Enfin, on a tous une partie en nous, femmes soumises. Enfin, on porte ça depuis des millénaires. Et il ne faut pas lutter contre, il faut l'accueillir, justement. Il faut la comprendre, il faut la soigner, il faut la prendre dans ses bras. Enfin, il ne faut pas la rejeter, en fait, parce que sinon, sinon elle va remonter un moment et ça va faire mal, en fait. Donc,
oui, puis ça permet une représentation.
C'est hyper important de voir les schémas dans lesquels on s'embarque, de comment certes il y a une part de soumission de la femme, mais il y a aussi une part aussi de domination qui fait que, enfin, c'est ultra intéressant psychologiquement, c'est très dur à écrire, mais c'est fascinant et c'est important.
Ça donne envie de le voir, en tout cas.
Merci.
On va passer à la dernière question avant de passer à votre affiche idéale. Il y a un test qui s'appelle le test de Bechdel, qui est souvent utilisé, qui a été théorisé en 1985 par Alison Bechdel et Liz Wallace dans une BD appelée « Lesbienne à suivre ». Et en fait, ce test, donc, il évalue la qualité de la présence féminine dans un film ou une série via trois questions. Est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins qui portent des noms ? Ces deux femmes se parlent-elles ? Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin ? Alors, c'est un test qui a été très utile à une époque pour souligner le manque de représentativité des personnages féminins, mais aussi à l'inverse pour la surreprésentation des protagonistes masculins dans les œuvres audiovisuelles. C'est considéré comme un outil, un indicateur de sexisme, etc. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'un film qui passe le test de Bechdel n'est pas sexiste, et le contraire, vice-versa. Qu'est-ce que vous proposeriez comme... sur quelle dimension on pourrait noter les films pour évaluer leur personnage féminin et la qualité de leur présence féminine ?
Pas facile.
Non, c'est pas facile.
C'est pas facile. Moi, je sais que je me pose la question du test de Bechdel à chaque fois.
Ok.
Parce que je pense que c'est une base, c'est un minimum en fait. C'est-à-dire, merde, mes personnages féminins se parlent pas, ou enfin, toi, c'est un truc un peu. Non, c'est vraiment la base.
Ok.
Et après, je pense que c'est tellement subjectif en fait. C'est tellement. Et parce qu'il y a en plus, enfin, on peut écrire des personnages féminins que certains vont adorer, d'autres pas. Donc c'est. Enfin, moi, je pense que c'est un peu. Ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les bons et les mauvais personnages. Je pense que c'est. Faut y mettre tout son cœur, quoi. Faut y mettre tout son cœur, faut les caractériser, faut pas qu'ils soient caricaturaux, enfin. Je mets comment juger de bons personnages.
Est-ce qu'on pourrait juger sur sur leur évolution ? Est-ce qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée ? Est-ce que le personnage n'est pas linéaire ?
Moi, c'est vraiment c'est plus il y a leur humanité quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils sont c'est très très dur comme
c'est dur
comme
hein.
question.
Mais déjà, ce test est un bon indicateur. Ouais. Enfin, c'est un indicateur. Après, faut savoir l'utiliser, j'imagine.
Ouais.
Toi, Marine, t'en penses quoi ? Tu l'utilises ?
Bah, un petit peu aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de la caricature. Ça, pour moi, c'est vraiment un des critères principaux. Et après, je m'étais dit, arriver donc dans cet esprit-là à montrer la complexité des personnages féminins, leur faire une vraie place, évidemment, dans la narration. Et après, je m'étais dit, faire attention à l'âge qu'on représente aussi, c'est-à-dire... Enfin, ce qui va avec l'idée d'arriver à travailler des personnages féminins dans les films, qu'ils soient secondaires ou principaux, en sortant toujours de l'idée qu'elles doivent occuper la place d'un objet du désir. C'est-à-dire qu'elles soient autre chose que l'objet du désir. Alors, elles peuvent être l'objet du désir, hein, c'est pas non plus ça, hein, mais qu'elles soient pas seulement ça, tout ça,
ouais,
qu'elles soient autre chose et qu'elles vivent autrement. Donc représenter des femmes d'âge différent, arrêter de s'intéresser que aux femmes qui sont en plein âge d'être extrêmement désirables et prêtes à enfanter quoi, donc à sortir de ce rapport là et puis à montrer aussi qu'elles évoluent, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas figé quoi. C'est important dans la description d'un personnage qu'un personnage justement, dans sa complexité, quoi. Il n'est pas A plus B au début du film, puis en fait, à la fin du film, il est toujours A plus B, parce que c'est une femme, on sait ce que c'est, on lui donne deux, trois attributs, puis c'est bon.
Ou alors c'est le sujet.
Ou alors
c'est le sujet. C'est sa problématique.
Voilà.
Et ça peut être intéressant. Ouais.
Mais en tout cas, voilà, de sortir des caricatures et de sortir de cette idée qu'une femme dans un film, c'est forcément un objet du désir.
Et pour rebondir aussi, j'ai une anecdote qui est un peu similaire à cette session de sélection à laquelle j'avais participé sur la parité. Et on avait aussi une sélection qui disait, justement par rapport au test Bechdel, on disait on prend pas les films qui passent pas le test Bechdel. C'est genre un principe et tout. Et là, on tombe sur un scénario écrit par deux hommes, avec que des hommes dedans, parce que ça parle du Moyen-Âge et d'un parcours de guerrier, en fait. et qu'il ne parle que du fait que le guerrier est mal dans sa peau parce que justement il n'a pas le droit de ressentir, il n'a pas le droit de. Et on se dit, mais on peut pas ne pas le
prendre. Ben oui, c'est ça.
Enfin, on en revient au féminin masculin. Ah
ouais, bien
enfin,
sûr, bien sûr.
C'était des hommes qui s'intéressaient au fait que on les privait de leur part féminine, qu'on les privait. Alors le Vitesse, ça passait pas du tout Bechdel, mais ça parlait que du féminin et de la réconciliation homme-femme, sans femme à l'écran. Et pourtant, c'était le sujet abordé de manière ultra intelligente.
Bah, c'est comme le film de Coralie Farja qu'on a reçu dans un précédent épisode d'Affiché, qui s'appelle Revenge. La femme, il n'y a qu'une seule femme dans le film, entourée de trois hommes. Elle parle pratiquement pas, et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit pas un film féministe. Enfin, qu'elle ne soit pas un bon personnage féminin, justement. Sans la parole, elle exprime, comme tu disais, des choses, pas autre chose que juste ce qui est écrit et ce qui est parlé.
Oui, elle passe pas le Bechdel.
Non, pas du tout. J'ai l'impression que notre conclusion, c'est un peu, il faut de la collaboration à tous les étages, c'est-à-dire dans la fiction et dans le processus de création pour pouvoir sortir un peu des étiquettes.
Ouais, il faut de la curiosité, il faut de l'ouverture d'esprit, il faut sortir des sentiers battus. Ouais.
Trop cool. Et bien du coup, je vais terminer cet épisode d'Affiché en vous demandant votre affiche idéale. Alors, je ne savais pas du tout que vous écriviez des biopics à ce moment-là, mais je vous ai quand même demandé de constituer votre affiche idéale, donc avec scénariste, réalisatrice ou réalisateur, actrice, pour le biopic d'une femme, laquelle, et elle peut être connue ou non. Marine ?
Alors, donc, c'est un pur hasard, mais donc moi, je suis en écriture d'un projet franco-américain qui retrace l'histoire d'un tableau qui a fait scandale en 1884 au Salon de Paris en France, donc, et qui était le portrait d'une femme américaine qui avait migré en France, mais qui était d'une origine française de migrants du XVIIe siècle, qui était parti s'installer en Louisiane, et qui rencontre le peintre John Singer Sargent, qui est lui-même américain d'origine, mais expatrié en France à cette période, parce que la France était un creuset artistique, en pleine effervescence. Et ils se rencontrent, il y a une relation qui se tisse entre eux. Et elle est une femme qui a fait un mariage bourgeois très conventionnel et qui essaie de trouver sa liberté là-dedans et qui crée en fait une sorte de fascination par son audace vestimentaire, sa façon de se maquiller et qui crée un culte de la personnalité, ce qui fait qu'elle fascine les gens. Il y a plein de gens du monde entier qui viennent à Paris et qui veulent dîner avec elle, etc. Et John Singer Sargent la rencontre. Lui, il est au début, il vient de finir les Beaux-Arts, il essaie aussi de se faire un nom. Et il se dit que ce serait... Il est aussi fasciné par cette femme, par sa beauté, par sa singularité. Et il se dit que ce serait un super tremplin pour sa carrière de faire son portrait. Donc il lui demande si elle veut bien, si elle accepte de poser pour lui pour faire son portrait. Et donc il fait son portrait. Il met un an et demi à le faire parce qu'il a énormément de mal à la cerner, en fait, et du coup à la peindre. Il y a toute une relation qui se tisse entre eux à travers ces séances de pose. Et au moment du Salon de Paris, elle est persuadée que ça va être l'apogée de sa réputation et que lui, ça va être le tremplin vraiment qui va faire décoller sa carrière. Donc, ils sont pleins d'excitation. Tout le monde attend ce tableau, etc. Et donc, le vernissage a lieu le premier jour de l'exposition. Et là, ils se font décapiter. C'est-à-dire que tout le monde trouve... Enfin, les critiques, etc. sont terrifiantes. Ils trouvent qu'elle est représentée de façon dégoûtante, qu'elle a l'air d'une prostituée, que ça se fait pas de peindre une femme comme ça, etc. Parce qu'ils la peintent en racontant qui elle est, c'est-à-dire une femme extrêmement libre, effectivement, qui a des mœurs légères, qui collectionne les amants, etc. Et à cette époque-là, une femme de la très haute société... qui se permet une représentation de mœurs légères est absolument pas tolérée. Alors même que ça se faisait et qu'il y avait énormément d'hommes qui avaient des vies complètement décousues. Mais là, le fait qu'en peinture, on revendique la liberté de cette femme, ils ont été complètement rejetés. Donc elle a été rejetée de la haute société. Là, vraiment, les gens la regardaient avec mépris, ils ne voulaient plus l'inviter, etc. Et lui, il a compris que sa carrière en France était terminée. Et il s'est expatrié, il a fait la suite de sa carrière en Angleterre. Et en fait, paradoxalement, ce portrait est devenu le portrait, malgré tout, qui a fait parler de John Singer Sargent. Du coup, c'est en fait ça qui a fait le tremplin, malgré tout, de sa carrière internationale. Et c'est resté le tableau le plus connu de ce peintre. Et il est au Met à New York. Et c'est dans la culture anglo-saxonne. C'est une référence très, très forte, picturale, de représentation des femmes, etc., à la fin du 19e. Et ça a inspiré énormément de couturiers. C'est un tableau qui a inspiré encore aujourd'hui le monde de la couture vraiment très, très fort. Il y a souvent des photos qui sont faites de reproductions de ce tableau avec des comédiennes, etc. Voilà, donc c'est vraiment la rencontre de deux personnages très libres en recherche d'identité qui se rencontrent et qui ont une aspiration à faire leur place dans la société en revendiquant des critères qui sont les leurs et qui sont sabrés au moment même où ils pensent que ça va être leur apogée. Donc c'est une vraie tragédie, c'est une histoire magnifique.
Ouais. J'adore.
Et donc le portrait s'appelle Portrait de Madame X, il est au Met à New York. Et dans l'idéal, j'adorerais que ce soit Sacha Ronan qui interprète le personnage.
Oh là là.
Voilà, ça, c'est dans un monde rêvé.
J'ai une petite vague de frissons. C'est trop bien. Ok, trop cool. Et toi, Sabrina ?
Eh ben moi, le biopic, je suis moi aussi en train d'écrire un biopic.
C'est fou ça quand même, que je vous ai posé cette question.
Qui est d'ailleurs très avancé et en recherche de producteurs anglophones. Donc sur qui s'appelle Madame Einstein, donc sur la première femme d'Albert Einstein. Et pour moi, en fait, tout le défi, et c'est en ça que je trouve que ce bouquin est passionnant pour la dernière couche d'écriture, j'espère, c'est de se dire que c'est pas un film qui raconte comment elle a été écrasée par un homme et il a tout eu, elle a rien eu. Et en fait, je ne pense pas qu'Albert Einstein était un homme heureux à la fin de sa vie. C'était quelqu'un qui était très, très... Ça se dit pas, ça se voit pas, mais obsédé par son image. Et le jour où c'est leurs découvertes ont été empruntées, on va dire, pour créer la bombe atomique, ce genre de choses, en fait, il a développé un ulcère à l'estomac. Le médecin lui a dit, vous avez une bombe dans le ventre, monsieur Einstein, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. Donc c'est très, très symptomatique de sa peur, de comment il était vu par le monde, en fait. Et là, le fait est que ses recherches donnaient la bombe atomique, en fait. Et donc son image était salie, et il ne supportait pas. Et pour moi, c'était un homme qui n'était pas plus heureux qu'elle, en fait. Et le fait qu'il ait réussi au sens patriarcal du terme tel qu'on considère encore un peu aujourd'hui ne l'a pas rendu heureux. Et moi, mon défi dans ce film, c'est de se dire justement, en fait, aucun des deux, en fait, n'a eu ce qu'il voulait, aucun des deux n'a été heureux. Et c'est pas parce qu'on lui a attribué tous les mérites de leur recherche qu'il est plus heureux qu'elle, en fait. Enfin, j'ai vraiment envie qu'on sorte de ce film en se disant ça, en fait. Et que finalement, ils auraient collaboré ensemble, ça aurait été... C'est exactement ce petit paragraphe que je vous ai lu, en fait, le côté... mais si on partageait tout, si on redéfinissait la question du bonheur, en fait, ça irait un peu mieux. Mais au final, moi, j'ai l'impression que le cœur de ce projet, moi, ce qui me touche vraiment, c'est de se dire que c'est ces deux personnages, donc que ce soit Albert Einstein ou Mileva Maric, ce sont deux âmes très, très seules qui cherchent leur place dans la société et qui se débrouillent comme elles peuvent pour exister, pour créer du lien et pour appartenir, en fait, au monde. Et leur façon de faire, c'est d'essayer de comprendre le monde et l'univers de manière physique, tout ça. Et ils essayent comme ils peuvent de juste appartenir au monde. Mais c'est triste, en fait.
Mais j'aime bien les films tristes.
Mais voilà, mais parce qu'on en revient à des valeurs et des choses qui sont faussées dès le départ, en fait.
Mm.
Donc on cherche le bonheur là où il n'est pas, dans la réussite, dans le succès, dans le... Et voilà. Mais c'est une histoire magnifique.
J'ai hâte. Et c'est quoi ton affiche idéale, du coup ?
Moi, mon affiche idéale pour Mileva, ce serait Claire Foy.
Ah ouais. Merci à vous deux, vraiment. J'étais ravie de vous recevoir.
Merci.
Merci à toi.
Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous. Vous savez qu'on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.